Bon, alors, comme il y a eu des incidents bien connus de messieurs Micro la dernière fois, une partie du film a pu être transmise dans la salle 6, la salle aveugle. L'autre salle, l'autre, c'est-à-dire celle où je ne suis pas. Et si vous le permettez, par égard pour vos camarades, je vais prendre 5 minutes pour rappeler les articulations principales du cours de samedi dernier, pour qu'ils sachent exactement où nous en sommes. Alors, samedi dernier, j'étais toujours dans ce que j'ai appelé la première épreuve de celui qui veut écrire une œuvre, qui est l'épreuve du choix ou du doute, du choix de la forme. Et j'en étais venu à expliquer que le choix de la forme, bien qu'il s'agisse d'une forme fantasmée, non pas à proprement parler du contenu, avait lui-même, ce choix avait lui-même un enjeu d'ordre ou théologique, ou philosophique, ou métaphysique, à savoir que vouloir le livre architectural et prémédité, comme disait Mallarmé, c'était, au fond, se ranger à une philosophie moniste qui pense le monde comme un tout organisé, architecturé, tandis que l'album, le choix d'album, renvoyait probablement à une philosophie pluraliste ou relativiste, l'album étant dans le meilleur des cas destiné à donner ce que j'ai appelé l'essentiel de l'inessentiel, ou plutôt l'inessentiel comme essentiel. Et j'en étais venu à ce moment-là à une dialectique du livre de l'album, en faisant remarquer que si un livre est interrompu avant qu'il soit terminé, ce qui, par exemple par la mort de l'auteur, eh bien ce que ça donne, c'est un album. Et je donnais comme exemple, bien sûr, les pensées de Pascal. Et d'autre part, le livre une fois fait, soumis à l'usure, à l'érosion du temps, pour dire les choses simplement, redevient album. Finalement, pour nous, s'il est ancien, est essentiellement une collection de citations, c'est-à-dire un paysage de ruines. De là, j'avais parcouru d'autres indécisions, puisque c'est l'épreuve de l'indécision, d'autres indécisions de forme, entre les mots, entre les notations. Comment choisir? Et j'avais dit que ce qui troublait beaucoup celui qui veut écrire, c'est le sentiment, c'est je dirais la défaillance du sentiment de nécessité. Comment arriver au sentiment que le livre qu'on fait, qu'on veut faire, est nécessaire? Et j'avais dit qu'il y avait peut-être des substituts timides de la nécessité, du sentiment de nécessité, par exemple l'après-coup, par exemple, la projection dans le sentiment d'un lecteur qui aurait besoin de ce livre, est-il unique? N'y aurait-il qu'un seul lecteur qui ait besoin de ce livre? Le livre serait à ce moment-là nécessaire. Et enfin, j'avais abordé aussi, je crois, le problème de la preuve, entre guillemets, d'un livre, qui est finalement une preuve purement tautologique, puisque le livre est prouvé d'une façon, je dirais, sur place, par une sorte de surplace, simplement par le sentiment qu'il l'est. Enfin, j'avais terminé cette première épreuve en posant le problème de l'évaluation de mon propre talent quand je fais le livre. Évaluation nécessaire mais difficile, le talent étant, disons, le sentiment de la limite de mes forces, ce que je peux faire, mais ce au quoi, au-delà de quoi je ne peux pas aller. J'avais signalé des cas fréquents d'auto-méconnaissance, comment l'auteur méconnaît son talent, soit d'ailleurs qu'il le pense plus grand qu'il n'est, soit, ce qui est aussi dangereux, qu'il le pense moins efficace. Enfin, toujours dans le problème de l'évaluation, j'avais dit que ce qui était difficile, mais en même temps ce qui pouvait guider, c'était de rester dans ma vérité, et j'avais repris la citation de Heidegger, rester dans le cercle de mon possible. Et j'en avais ainsi terminé avec la première épreuve, et j'avais abordé la seconde épreuve, qui est longue à tous égards, longue en soi et longue à exposer, qui est l'épreuve du temps nécessaire pour faire l'œuvre, le temps de la patience. Et j'avais annoncé que cette seconde épreuve se diviserait en deux sous-parties,
que j'avais proposé numéro T, grand A et grand B. Grand A va traiter de l'organisation matérielle de la vie d'écriture, que j'ai appelé la vie méthodique. La vie méthodique en me servant d'un mot de Chateaubriand, qui disait, pendant son ambassade à Rome, les Romains sont si accoutumés à ma vie méthodique que je leur sers à compter les heures. Et deuxième sous-partie, grand B, ce qui est différent, c'est la praxis d'écriture, c'est-à-dire les obstacles, les menaces internes, les ralentissements qui interviennent dans l'activité même de l'homme qui est en train de faire le travail. Alors, donc, j'avais bien sûr commencé la sous-partie grand A, la vie méthodique, en parlant, premièrement, de la rivalité entre l'œuvre et le monde. L'œuvre et le monde entrent en rivalité. La figure exemplaire et déchirante et déchirée de cette rivalité, c'est Kafka. Kafka. Et le monde, j'avais essayé de détailler un peu ce qui pouvait être le monde qui entrait en rivalité avec l'œuvre. Et j'avais dit, il y a d'abord ce que Kafka appelait le bureau, mais qui a bien des substituts pour chacun d'entre nous, sauf pour les grands privilégiés comme les professeurs de France, qui effectivement, en principe, aiment ce qu'ils font. Donc le bureau, c'est-à-dire toutes les formes d'aliénation professionnelle et sociale. Deuxièmement, ce qu'on appelait dans la langue du XVIIe siècle les concupiscences, et dans la langue du XXe, la drague. Et troisièmement, l'amour, l'être aimé, en tant qu'il peut entrer en rivalité avec l'homme. Et j'avais conclu provisoirement que malheureusement, il n'y avait probablement pas d'autre solution pour dans cette rivalité de l'homme et du monde que d'assumer un certain égoïsme. Et j'en étais là, et donc maintenant je continue. Et je vais m'occuper d'une notion à laquelle j'ai donné un nom, un titre latin, mais qui est très connu, c'est la notion de vita nova, de vie nouvelle, de vita nova. Vita nova, pourquoi ? Parce que dans le fil de mon récit, l'idée d'œuvre, de cette œuvre qui est solennisée, puisque pour deux raisons, la première c'est qu'on ne fait que parler d'elle, et la seconde c'est qu'elle n'a pas lieu. Donc, raison d'être solennisée, elle n'existe pas. Eh bien, dans cette vie de cet homme qui cherche à faire une œuvre, il y a une organisation de la vie qui est liée, je pense, à l'idée d'une rupture de vie, c'est-à-dire d'une novation du genre de vie, l'organisation d'une nouvelle vie. C'est ce que j'appelle donc la vita nova, qui est presque une pulsion, une envie, un fantasme de vita nova. Alors, vita nova, c'est une expression latine, c'est celle qu'emploie par exemple, je crois, Michelet, je ne me rappelle plus très bien, puisqu'il a eu, vous savez, sa vita nova vers, je ne sais pas, l'âge de 51 ans, quand il a rencontré une jeune fille belle, fragile de 20 ans, mais qui s'est avérée par la suite être une veuve tout à fait abusive et animée d'une grande énergie pour corriger les manuscrits posthumes de Michelet. Mais cela dit, la rencontre de cette jeune fille, Athénaïs, a fait pour lui une véritable rupture de vie et aussi une rupture d'œuvre. C'est le moment vers 1851 ou 1852, c'est le moment où il a été, pour des raisons politiques, destitué de sa chaire du Collège de France par Napoléon III, et que donc il a connu une certaine pauvreté, une certaine difficulté de vivre, avec plus rien sinon le revenu de ses livres, et aussi il a changé, disons, ses œuvres ont changé, puisqu'il a abandonné en partie l'histoire pour se donner à l'écriture de livres dits naturalistes, c'est-à-dire sur la mer, l'oiseau, l'avantage et la femme. Donc Michelet a connu cette vita nova mais on dit aussi quelque chose, quelquefois, vita nuova, c'est-à-dire c'est l'expression italienne, parce qu'il y a un livre de Dante qui s'appelle Vita Nova ou Vita Nuova, enfin, on ne sait pas très bien, qui est un livre qui mêle d'une façon extrêmement passionnante des poèmes et le récit des circonstances biographiques qui ont amené ces poèmes. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, si vous permettez, sur cette idée de Vita Nova qui coïncide avec l'entrée dans l'œuvre. Chacun, je crois, a connu ou connaît périodiquement le fantasme de rupture. Rupture de genre de vie, rupture d'habitude, rupture de liaison. Et souvent cela reste d'ailleurs un fantasme. La nature fantasmatique de cette envie de rupture, de cette pulsion de rupture, je trouve apparaît bien dans une chronique des annonces de libération, mais je crois que ça, la chronique elle-même, je ne l'ai pas trouvée depuis un certain temps, et qui s'appelait Changer la vie. Changer la vie, c'est la vie d'Anoba. Et il y avait, bon, c'est très normal et c'est très bien, il y avait dans ce journal une chronique sur le changer la vie, c'est-à-dire sur les vies d'Anoba. Alors, dans ce contexte, il y a évidemment deux éléments. Il y a d'abord se débarrasser de. Se débarrasser de quelque chose, se débarrasser du passé, se débarrasser du présent qui colle, c'est la rupture comme libératrice de liens, c'est l'image mythique de la mue, de la désquamation, du changement de peau, d'une nouvelle naissance liée à l'immortalité. Alors d'abord le premier élément c'est se débarrasser, et le deuxième élément c'est évidemment créer du nouveau total, grandiose, triomphal. Pour rester dans l'ordre littéraire, je signalerai le cas, disons, d'abord de Balzac, plutôt dans Balzac, ce n'est pas le cas de Balzac, c'est dans Balzac, à la fin des Illusions perdues, peut-être vous vous rappelez, Lucien de Rubempré est au bord du suicide, et il rencontre ce personnage extraordinaire qui est Carlos Herrera. Et à ce moment-là, il découvre que sa vie peut recommencer sur d'autres bases et qu'il va écrire avec Carlos un roman triomphal, Vita Nova. Deuxièmement, on veut dire aussi, je vais produire radicalement et sans concession au prix d'un arrangement total, je vais produire un autre jeu, J.E. Et je vais revenir un peu plus tard sur la nature religieuse de ce mouvement. Eh bien, Rimbaud, bien sûr, a connu une rupture, et donc une vita nova, une rigueur exemplaire, qui est même ahurissante, je l'ai dit, en abandonnant complètement la littérature, et en passant au voyage, puis au commerce. Ou à l'exploration commerciale. Mais ce n'est pas cette rupture que je veux signaler, c'est à l'intérieur même de la volonté d'œuvre, donc de la littérature, la rupture décrite par Rimbaud, qui est une rupture bien connue, qui est la rupture décrite dans ce qu'on appelle la lettre du voyant, lettre à Isambard du 13 mai 71. Si vous permettez, je rappelle ces mots, je crois, connus. Maintenant, c'est une description de Vita Nova par changement du jeu, J.E. Maintenant, je m'encrapule le plus possible. Pourquoi ? Je veux être poète et je travaille à me rendre voyant. Vous ne comprendrez pas du tout. Je sais si maintenant on comprend. Il y a combien de voyants à faire un mot. Donc, vous ne comprendrez pas du tout. Et je le saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète. Ce n'est pas du tout ma faute, c'est faux de dire « je pense », on devrait dire « on me pense », « je » est un autre. Naturellement, ce fantasme de rupture peut en quelque sorte se monnayer en sous-fantasme, car il ne faut pas oublier que le fantasme est un scénario, et que donc il y a des scènes dans le fantasme, il y a des scènes au sens théâtral que l'on passe, que l'on repasse, que l'on caresse, qui sont toujours les mêmes, qui sont immobiles, n'est-ce pas? Je dirais que le fantasme est un film à vue fixe, une suite de diapos, quelque sorte. Par exemple, aller s'enfouir dans une solitude absolue, au sens géographique, et même paysagiste du mot, dans l'Obermann de Sénancourt, pas disons très romantique. Le héros, après une vie malheureuse, décrit le site idéal où il va se réfugier, qui est un site pastoral, dans la montagne. Ce qui peut renchérir ce fantasme de retraite, de rupture en retraite, c'est qu'elle soit absolue, la retraite, mais en même temps très proche d'un lieu agité, d'un lieu mondain. Ce n'est pas le cas de Rousseau, mais je vous cite tout de même l'incident, je dirais pourquoi après, moi je ne sens pas les choses de la même façon. Rousseau, dans la 7e rêverie, dit qu'un jour il a cru trouver une retraite absolue dans la montagne. Il décrit cette retraite avec délice. Et puis, au bout d'un certain temps de sa promenade, il s'aperçoit que ce lieu qu'il croyait radicalement retiré du monde et très loin du monde, il s'aperçoit que ce lieu, c'est très beau d'ailleurs le passage, parce que ça a quelque chose de presque d'hallucinatoire, et ça fait penser d'ailleurs beaucoup à du Proust, quand un côté de Proustien bascule dans l'autre côté, c'est pas quand le côté Guermantes bascule tout d'un coup dans le côté Swann, etc. Et alors il s'aperçoit tout d'un coup que ce lieu retiré est tout près d'une manufacture. Ce sont des surprises qui sont possibles en montagne. Et Rousseau n'en est pas du tout content. Mais moi, si je vous dis, comme toujours je m'identifie sans me comparer, j'ai ce fantasme souvent d'un lieu absolument retiré, abrité, mais que ce lieu soit au sein d'une grande ville. À vrai dire, je n'aime ni la campagne, ni la province, et mon idéal, c'est une sorte d'air aérien, retiré, presque secrète, dans une très grande ville. C'est pour cela que Paris me convient. Parce que Paris, ici au collège, il y a une chaire qui a été fondée par la chaire d'histoire de la ville de Paris. Et donc, malheureusement, je ne peux pas prendre comme sujet de cours Paris. Mais c'est dommage. Souvent, j'aimerais bien que nous parlions d'une année de Paris. Et je dirais que ce que j'aime dans Paris, ce qui convient en tout cas à ce fantasme que j'ai décrit, c'est que c'est une ville aux modulations, c'est une ville très musicale, et où les modulations, les passages d'une tonalité à une autre, sont extrêmement rapides, hardies, entre un lieu central et un lieu provincial, il y a souvent l'espace d'une très petite rue. Et si vous pouvez observer ça dans Paris, vous verrez, je crois que c'est vrai. Paris est une ville qui module, mais d'une façon toujours très, très hardie, très, très noire, et un peu comme les derniers musiciens français qui ont modulé avant la tonalité. L'art de la modulation chez Fauré, par exemple. Et même dans ce quartier, vous savez très bien que entre Saint-Michel, entre le quartier, au sens un peu gestaltiste, Saint-Michel d'une part, et d'autre part Saint-Germain-des-Prés, qui sont même très près, il y a une modulation très, très ténue, très courte, qui est l'Odéon. Et vraiment, en 100, 200 mètres, vous passez d'un habitat à un autre, et ces deux habitats sont entièrement différents. De même, entre Saint-Germain-des-Prés et le Luxembourg, vous avez une transition, une modulation en sens musical, qui est, je le sais bien, parce que j'habite à côté, la place Saint-Sulpice. La rue des Canettes a été longtemps une rue modulante, qui permettait à ce moment-là de passer d'un certain nombre qui était encore après la Libération, le quartier de la mode existentialiste, à un Saint-Sulpice qui était encore après la Libération, le quartier des accessoires religieux. Bon, maintenant tout ça a changé, et donc la rue des Canettes a perdu sa modulation, elle a été traitée par un musicien atonal, et par conséquent c'est une rue maintenant qui a été attirée, n'est-ce pas, dans la tonalité de Saint-Germain-des-Prés, avec des pizzas, des discothèques, etc. Et donc la modulation s'est reculée vers la place Saint-Sulpice. Et alors donc tout cela, je dis que j'aime tout cela, parce que c'est effectivement dans Paris, il y a comme ça des morceaux de rue, des morceaux de place qui font des modulations à la fois très rapides, difficiles et pourtant réussies, comme en musique, un musicien très habile du début du siècle arrivait à passer, disons, très 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 rapidement, je ne sais pas, du do majeur au fa dièse mineur, par exemple. Ou encore, d'ailleurs, très proche du fantasme précédent, le fantasme de plonger. Pour moi, j'ai une espèce de pensée voluptueuse à l'idée de plonger dans une grande ville et de me retrouver tout d'un coup dans un coin que je connais très bien. Je suis dans un espace que je ne connais absolument pas, je suis dans un autre monde, et tout d'un coup, un coin de rue me ramène à un paysage extrêmement connu. Et il y a une ville qui est très favorable à ces voluptés, c'est-à-dire à ces rattrapages de dépaysement, c'est-à-dire, c'est Tokyo. En tout cas, vous pouvez se sentir souvent à Tokyo. Et donc, par conséquent, je peux très bien avoir le fantasme que j'ai fait une fois, mais c'est un fantasme que je ne réalise jamais, bien sûr, qui est d'aller m'enfouir 15 jours dans un hôtel d'un tout autre quartier de Paris. C'est-à-dire disparaître, provisoirement, mais tout prêt. Tout prêt. Bon, j'avais plusieurs anecdotes historiques qui illustraient ce que je dis là. Donc, ça, c'est un peu le thème de la fugue. La fugue, qui est finalement une fugue, c'est une esquisse de Vita Nova. Alors, un autre sous-fantasme de rupture de vie, c'est de faire ses adieux. La Vita Nova est marquée par une sorte de cérémonie d'adieu au monde tel qu'on l'a connu ou pratiqué. C'est ce que dit réellement ou à peu près Proust avant d'entrer en retraite pour se consacrer à son roman. Vous savez que le 27 novembre 1909, il a loué 3 loges au Théâtre des Variétés pour la représentation d'une comédie de Feydeau et Croisset, qui s'appelle Le Souffle, et il y a invité tous ses amis pour marquer cet adieu au monde. Il y a peut-être un jour, quand j'aurai décidé de franchir la première épreuve et décider qu'elle va être ma grande œuvre, et à ce moment-là, peut-être pourrais-je ainsi donner une grève de phallas, évidemment pas au Théâtre des Variétés, maintenant ça serait plutôt le phallas, et ça serait très bien parce que finalement, il vaudrait mieux fêter un livre quand il va se faire plutôt que quand il est publié. Extrêmement banal. Alors, ce fantasme de rupture de Vita Nova n'a sans doute pas d'âge assigné dans la vie humaine, tout le monde peut l'avoir, et puisque j'ai parlé de fugue, les enfants peuvent très bien avoir le fantasme de Vita Nova. Ils ne l'expliqueront pas comme ça, mais un enfant peut très bien avoir par rapport à sa vie familiale ou à son milieu scolaire, etc., un fantasme de Vita Nova, ce qu'on appelle un fantasme d'aventure. Mais je crois tout de même que là où il est le plus intéressant, si vous me permettez de le dire, c'est au moment de l'entrée dans la vieillesse. Moi j'aime mieux d'ailleurs parler de toujours d'entrée dans la vieillesse plutôt que de vieillesse. Parce que la vieillesse n'est pas une époque mathématiquement définie. Et simplement, c'est un mouvement d'entrée dans quelque chose. C'est tout. Donc ce mouvement d'entrée dans la vieillesse, et je crois que toute retraite, au sens social et désormais syndical du mot, contient en germe le fantasme de Vita Nova. Alors c'est banal, mais ce que je veux marquer, c'est que si on ne l'édulcore pas socialement, un recours à un modèle, je dirais, pantouflard ou passionnaire, cette retraite et le fantasme qui peut lui être attaché à quelque chose de violent et de subversif. Ça me paraît toujours sinistre d'entendre dire d'un vieux, avec admiration, qu'il se maintient bien, qu'il est extraordinaire, qu'il continue à faire ce qu'il faisait, comme une sorte de satisfaction merveilleuse. Par exemple, c'est merveilleux, vous savez, à son âge, il continue à faire du tennis, il continue à faire sa promenade, il continue à faire l'amour, comme Victor Hugo, très tard. Mais je dirais que continuer n'est pas un acte de vitalité. Je dirais que c'est presque le sujet du cours, c'est cette idée-là. Continuer n'est pas un acte de vitalité. Continuer, ce que la vieillesse requiert, quand elle le peut, c'est précisément une rupture et non pas une continuation, une vie et non pas une survie, un commencement et non pas une fin. Ce qu'elle requiert, la vieillesse, c'est précisément une vita nova, c'est-à-dire naître de nouveau. J'ai cité la vita nova de Michelet. Montre bien que lui, il a su naître de nouveau à un âge d'habitude, on entre dans la vieillesse, ce qui d'ailleurs n'explique pas du tout la lucidité sur les contraintes de la vieillesse. C'est encore Michelet, malgré sa réussite, la réussite de sa vita nova, c'est Michelet qui disait cette expression très belle et très désolante, ce long supplice, la vieillesse. Alors, je reviens un bref instant sur l'opposition du continuer, c'est-à-dire continuer à vivre comme avant, et du rompre, changer, être de nouveau, être quelqu'un d'autre, être un jeu différent. Je dirais qu'il y a deux types d'immortalité au fantasme. C'est-à-dire que le vœu d'immortalité qui est en chacun de nous se présente sous deux formes opposées. La première, c'est celle-ci. Être immortel, ou penser être immortel, consiste, croit-on, à ne pas bouger. C'est ce que j'ai appelé la philosophie du Bouddha. Mais moi, la philosophie du Bouddha, je l'ai mise en rapport avec l'oisiveté absolue, vous vous rappelez, c'est-à-dire avec le faire rien, poème Zen que j'ai cité, l'enfant marocain que j'ai cité. Ce n'est donc pas l'immortalité visée dans la dévotion à l'œuvre nouvelle qui est de force, travail. Et alors, la seconde forme, précisément, c'est que être immortel ou vouloir être immortel, c'est non pas continuer sans fin, mais c'est naître absolument de nouveau. Et l'œuvre à faire est médiatrice de cette immortalité-là. Il s'ensuit cette chose bizarre, qui m'arrive en tout cas à moi, et qui est que je supporte mal qu'on m'enferme, si je puis dire, dans la première immortalité, c'est-à-dire l'immortalité du toujours à la même place. Si immortelle soit-elle, je n'aime pas cette immortalité. Or, en fait, cela arrive tout le temps. Très souvent, les gens qui sont de façon anonyme, et particulièrement, c'est flagrant pour les étudiants, qui sont encore dans le problème des thèses de troisième cycle avec moi, bien, ces étudiants, il arrive fréquemment qu'ils vous lâchent, ce qui est très normal pendant quelques années, c'est-à-dire qu'on n'en entend plus parler du tout. On croit que la thèse est liquidée avant d'avoir été faite, très normal. Et puis tout d'un coup, manque de chance, ils reviennent. Ils reviennent et il faut leur faire un jury, évidemment, dans les deux mois qui suivent. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que par ce mouvement, ils ne s'inquiètent absolument pas de vous, professeur, c'est-à-dire qu'ils ne s'inquiètent pas de ce que vous avez pu devenir. Et ils vous demandent quelque chose, ils vous demandent naturellement, sans aucune agressivité, de façon absolument naturelle, quelque chose de conforme à ce que vous étiez au moment où ils vous ont vu pour la dernière fois. Et donc, en général, vous ne vous occupez plus du... Et ça, c'est l'une des contraintes un peu difficiles, je dirais, de l'activité intellectuelle, c'est que la demande publique est toujours décalée après l'état vivant où vous êtes, vous en êtes du monde et de votre parole. À tout instant, n'est-ce pas, en tout cas pendant très longtemps, mais ça continue encore, il m'a fallu répondre, d'ailleurs négativement, à des demandes qui m'avaient immortalisé, avec beaucoup de guillemets, hein, dans la situation de quelqu'un qui fait des mythologies. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on me demandait, bien sûr, des textes sur absolument n'importe quoi, parce que dans les mythologies, il y a tout, n'est-ce pas. Alors du coup, tout sujet devenait bon à une intervention mythologique. Et donc j'étais immortalisé dans ce moment, de 1900, je ne sais pas combien, 54 ou 55, où j'ai fait des mythologies. Et on pensait que toute ma vie, je resterais celui qui fait des mythologies. Et ainsi de suite, quand j'ai écrit le livre sur la mode, encore maintenant, bien que je ne pense plus du tout à la mode, que je n'ai plus aucune idée sur la mode, que je ne sais même pas où elle est, je parle de la mode vestimentaire, eh bien encore, on me demande des interventions sur la mode. Et donc, par là même, si vous voulez, ce qui est l'agression dans cette attitude vient d'eux. Il va de soi pour les autres qu'on n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'ils vous perdent de vue pendant 5 années et ils pensent qu'ils vont vous retrouver au moment où ils ont l'impulsion de vous appeler au téléphone, assis dans le même fauteuil, attendant le téléphone. Et c'est-à-dire qu'effectivement, chacun pense l'autre à disposition. Moi-même, sans doute, je le fais, bien sûr. Mais en réalité, c'est pas ça qui se passe. Ma pulsion, mon fantasme, c'est de changer de place, de chercher à être de nouveau, et donc, je parle à même, je ne suis jamais là où vous m'attendez. Il y a, bien sûr, plusieurs ethos, plusieurs morales, plusieurs ethos possibles de Vita Nova. Il y a la Vita Nova par l'aventure, par le dépaysement, par l'action. Et puis, en face, il y a la Vita Nova qui est voulue et fantasmée par l'œuvre à faire, et qui est la Vita Nova de la clôture et de la paix, selon un modèle paramonastique. Et je crois que cela tourne autour de la notion d'agitation. Je vais dire un petit mot. Qu'est-ce que c'est que la paix de la vie quotidienne? Bon, personnellement, je la définirais comme l'absence des agressions, c'est-à-dire dans tous les sens du mot, absence de toute intervention de ce que Rousseau appelait les méchants. Les méchants. Vous voudriez appeler les fâcheux, peut-être. Et en ceci, je vois trois motifs. Le premier, c'est que pour faire l'œuvre, il ne faut pas être dérangé. C'est très simple à dire, c'est très compliqué à réaliser. Les châteaux brillants, par exemple, un an ou deux dans un coin de la terre suffirait à l'achèvement de mes mémoires. Mais la phrase est très belle, je vais voir. Je n'ai eu de repos que durant les 9 mois où j'ai dormi la nuit. Expression admirable. Les 9 mois où j'ai dormi la nuit dans le sein de ma mère. Il est probable que je ne retrouverai ce repos à mon être que dans les entrailles de notre mère commune après lui. Et oui, l'œuvre, bien sûr, avec son grand taux initial, son dos qui a l'air, son dos majuscule, qui a l'air d'un ventre. Eh bien, la grande œuvre, c'est le ventre de la vie généreuse, de la vie prénatale. Deuxième remarque, la non-agitation est nécessaire à la pensée. Car j'ai trop peu de temps et trop peu de calme pour tirer de moi toutes les ressources de mon talent. C'est la fin. Eh bien, je comprends très bien cette pensée. Je dirais d'une façon plus radicale qu'il est difficile, en ce qui concerne, de supporter la vie. D'envie philosophique. Pour supporter la vie, j'ai besoin de pouvoir un peu philosopher en moi-même. Et par conséquent, m'étourdir accroîtrait le malheur. chaque fois que je dépasse une certaine dose d'étourdissement, à ce moment-là, je suis tout à fait malheureux. Et donc, j'ai chaque fois besoin de me reprendre vers un certain moment de philosophie. Et pour philosopher, il faut du temps. Il faut du temps pour philosopher. Et d'où l'angoisse surchargée, où on n'a pas le temps de réfléchir sur la vie, le sens, c'est-à-dire d'élaborer ce qu'on a appelait autrefois une consolation. Donc, travail de l'œuvre et repos pour la pensée, cela va ensemble. Et troisième remarque, bien sûr, tout cela est quantitatif et dialectique, c'est-à-dire que je puis, au fond, ressentir douloureusement l'incapacité de m'agiter. M'agiter peut-être, je peux le ressentir comme un mal, mais aussi je peux ressentir l'impuissance à m'agiter comme un autre mal. Parce que s'agiter, c'est tout de même investir. Donc, c'est témoigner, enfin, c'est être appelé par une valeur positive. Donc, le calme, je peux le vivre comme une privation de désir, comme je l'ai appelé une assez. Alors, à ce moment-là, je peux décider d'assumer cette inaptitude à l'agitation et de me ramener à ma propre capacité ou incapacité. Et l'agitation me fait horreur comme une chose dont je n'ai pas le pouvoir. On peut avoir ce sentiment-là. Mais l'image mythique du sage qui a le pouvoir de se retirer n'est pas du tout celle que je veux donner du problème. Pas du tout ça. Au contraire, on peut sentir l'impossibilité d'accéder à un régime d'agitation comme un manque. Alors ce qui est désiré dans la Vita Nova associée à l'œuvre, c'est un certain temps, une certaine temporalité quotidienne. Donc l'écrivain doit se livrer, presque malgré lui, à un temps sans aspérité et sans dérangement. C'est ça le problème. Flaubert, il a 32 ans, il me faut pour écrire l'impossibilité, c'est souligné, même quand je le voudrais, d'être dérangé. Il me faut l'impossibilité d'être dérangé. Donc, il ne suffit pas de ne pas être dérangé, il faut que ça soit impossible. L'écrivain doit être lié au temps par une loi qui le dépasse, par une nature, et c'est pour cela que la temporalité visée par la Vita Nova, si pratique qu'il la veuille, c'est une catégorie philosophique. Ce qu'il veut en effet, par une sorte de vie quasi mystique, quasi paradisiaque, ce qu'il veut, c'est un temps lisse, c'est-à-dire un temps sans butée, un temps de branlis, sans butée, sans échéance, sans rendez-vous, sans chose à faire, qui vienne casser la chose à faire. Quelle est l'image qui s'approcherait de ce temps lisse? Je dirais que ça serait plutôt celle de la dérive. Et il y a justement cette image et mise en scène par Rousseau, encore lui, parce que c'est lui qui est lui à ce moment-là, quand il est à l'île Saint-Pierre, qui est une île sur le lac de Vienne, et à ce moment-là, il s'est retiré dans un projet d'oisiveté, enfin, dont j'ai déjà parlé, et souvent, il se jette dans un petit bateau, je le cite, que le receveur, c'est-à-dire celui qui gérait l'île, n'est-ce pas, que le receveur m'avait appris à mener avec une seule rame. Je m'avançais en pleine eau. Le moment où je dérivais me donnait une joie qui allait jusqu'au tressaillement et dont il m'est impossible de dire ni de bien comprendre la cause si ce n'était peut-être une félicitation secrète d'être en cet état hors de l'atteinte des méchants. Et Rousseau, je sais pas, à ce moment-là, est déjà âgé, en tout cas, il a beaucoup vécu, c'est moi qui le dis. Et c'est évidemment l'âge où l'on souhaite avant tout, c'est évidemment le sens de cette déclaration, qu'on lui puisse la faire. C'est le temps de l'innocence, c'est-à-dire le temps du non-venir, qui répond à l'enfance, car l'enfant est celui à qui il ne faut pas venir. Et peut-être à la fin de la vie, il y a-t-il un temps répond à ce temps, le temps de celui qui ne veut pas dire, et qui le sent aussi. Alors, ce temps lisse ne doit pas être cassé, c'est là le problème, mais d'après doit être un temps régulier, c'est-à-dire soumis à une règle, d'où on pourrait dire, à contrario, que l'agitation, quelle qu'elle soit ou qu'elle soit, se définit comme un sans rythme. Agitation égale sans rythme. Dès qu'il y a rythme, il n'y a plus d'agitation. Maintenant de quelque chose de très important en tout cas dans ma propre obsession, obsessionnalité, qui est là le problème de la gestion. Du point de vue de la temporalité, ce qui sépare de l'œuvre et de sa fabrication, c'est-à-dire du temps lisse de l'œuvre à faire, ce sont ce que j'appelle les tâches de gestion. Là, j'oppose donc, de façon assez simpliste, je crois que ça correspond à une certaine réalité, les tâches de gestion et les tâches de création, même avec les guillemets. Donc, toute vie, bien sûr, et à plus forte raison, la vie sociale, requiert des efforts, des tâches, pour se continuer, pour s'entretenir, sans aucune visée de création. Ce sont les tâches de gestion. Il y a, par exemple, d'abord, la gestion des écrits. Une fois qu'on a écrit et qu'on a publié, ces écrits, en principe, la société vous demande de les gérer. Ils ne tombent pas définitivement hors de votre travail. Quand bien même vous le voudriez, vous êtes requis d'intervenir pour gérer ces écrits, pour accepter ou non les traductions, pour décider ou non de réédition. Vous avez souvent des tâches de writing, de rewriting à faire, des corrections d'épreuves. Enfin, il y a autour de l'écrit une agitation de gestion. Et cette gestion est pénible parce que l'œuvre fait... Il me semble qu'elle tombe pour l'écrivain dans l'inessentiel, au profit de l'œuvre à faire qui est l'essentiel. Et je crois que ça devrait être, disons, développé un jour, que pour celui qui a écrit, l'œuvre qui est faite et publiée devient inessentielle. Et que la difficulté, c'est que c'est précisément le moment où la société vous en demande compte. Elle vous demande compte de quelque chose qui est pour vous devenu inessentiel. C'est-à-dire que l'œuvre faite devient, je dirais, factice, dans tous les sens du mot. Et Flaubert, c'est à 41 ans, lorsqu'une œuvre est finie, il faut songer à en faire une autre. Quant à celle qui vient d'être faite, elle me devient absolument indifférente, et si je la fais voir au public, c'est par bêtise et en vertu d'une idée reçue qu'il faut publier, chose dont je ne sens pas pourquoi le besoin. À part que c'est exagéré, on va retrouver plus tard ce problème du pas publié. Alors, au fond, toutes les tâches de gestion de l'écrit sont pénibles, en tout cas pour moi, parce que ce sont des tâches de copie. Gérer l'écrit, ça veut dire toujours finalement le recopier. C'est-à-dire que pendant les semaines, les moitiés de journée, je peux passer mon temps à recopier. C'est-à-dire à faire des writing, des rapports, à redire ce que j'ai dit sous forme d'interview, à reproduire ce qui a été fait. Alors que la création se définirait par la non-répétition. Et créer, c'est évidemment créer une écriture originale pour soi-même, c'est-à-dire une écriture d'avant la duplication, d'avant la photocopie, qui constitue finalement l'activité majeure de la gestion des écrits. Il y a donc, en plus de la gestion des écrits, il y a des tâches de gestion qui sont en quelque sorte imposées, qui font partie de l'entour social, qui n'est pas forcément mondain, mais qui est tout simplement relationnel, au sens large du terme. Et relationnel, ce qui est difficile, c'est que dans ce relationnel sont impliquées les relations de milieu, par exemple, si on est dans un milieu intellectuel, il y a des relations de milieu, et la relation ou les relations affectives. Et que très souvent, elles sont impossibles à démêler. Je parle aussi d'une difficulté à laquelle qui me pèse personnellement beaucoup, qui est la difficulté, par exemple, de faire son courrier. Absolument la tâche même de gestion, de gestion relationnelle. Et je n'ai jamais pu faire mon courrier par quelqu'un d'autre, j'avais toujours échoué, parce que précisément le courrier, en tout cas le mien, il est très vite pénétré d'un élément qui n'est pas purement objectif, qui est de l'ordre de l'affectif. À ce moment-là, il est très difficile de répondre à quelqu'un par une lettre à la machine électrique. En tout cas, en France, c'est encore difficile. Je crois qu'aux États-Unis, il est très changé. Adressé aux besoins des lettres d'amour à la machine. Mais je crois qu'en France, en tout cas, ma génération n'appréciait pas bien, considéré comme un manque de courtoisie de répondre à une lettre amicale par une lettre à la machine. Alors à ce moment-là, bien sûr, on ne peut pas tricher, il faut la faire soi-même. Et d'ailleurs, ce problème de courrier, comme tâche en courant de gestion, c'est une véritable proie, donc pour moi, mais aussi, heureusement, toute proportion gardée pour Flaubert. Parce que j'écris à sa nièce Caroline une phrase vraiment bonne. Je voudrais pouvoir la reprendre à mon compte. Il écrit ceci. Il a 57 ans. Et à propos de lettres, je suis tanné dans les pays. J'ai envie de publier dans les journaux, par exemple dans Le Monde, que je ne répondrai plus à plus. 4 aujourd'hui, 6 hier, autant avant-hier, mon temps est mangé par ce gribouillage imbécile. Alors là, ça n'est pas vrai, parce que ce qui me passe, c'est que ce qu'il écrivait, vous savez, c'était de vraies lettres. Et par conséquent, une part importante et même capitale de son œuvre. Après tout, c'était parfaitement des tâches de gestion, c'était assez lettres, c'était des tâches de création. Mais évidemment, cela, il ne le savait pas, d'un point de vue a posteriori. Lui, il le disait que dans la souffrance d'être séparé de l'œuvre à faire, c'est-à-dire de la phrase à faire. Et encore Rousseau, sur ce même thème, Gauvier, après le déjeuner, toujours à l'île Saint-Pierre, je me hâtais d'écrire en rechignant quelques malheureuses lettres, aspirant avec ardeur à l'heureux moment de n'en plus écrire du tout. Alors, pourquoi est-ce que le courrier est une espèce de croix? Eh bien, parce qu'il représente précisément une contrainte affective, c'est-à-dire une contrainte qui est du bon côté, une contrainte qui est du côté de l'affection. Et qu'à ce moment-là, je suis déchiré, car au fond, on n'est jamais fatigué que de ce qui nous déchire, finalement. C'est pour ça que les sportifs, évidemment, endurent très bien de se fatiguer, parce que quand un sportif fait sa tâche de sportif, il n'est pas déchiré. Tout au moins, il n'en donne pas l'impression. Tout au moins, on ne dit pas de lui qu'il est déchiré. Et à ce moment-là, il n'est pas dans une fatigue réelle. Tandis que dès qu'on est déchiré, c'est là qu'on est fatigué. Et bien à ce moment-là, on est déchiré, effectivement, entre le besoin de satisfaire à l'affection dont j'ai besoin, qui m'est un bien précieux et vital, et la folie qui me fait désirer la levée de toute contrainte, même affective. L'œuvre est intolérante, et c'est en cela qu'elle est folle. Je dirais que de même qu'un dyspeptique, comme la tante Léonie, qui pousse à la limite, ne supportera pas une gorgée d'eau de Vichy, et bien de même, dans un mouvement d'excès, on peut dire que, à certains moments, je ne supporterai même pas l'obligation d'écrire une carte postale à un ami. Et par conséquent, à toute forte raison, je ne supporte pas toute une journée de courrier. Alors, pour comprendre le poids de la gestion, il suffit, je dirais, de la comptabiliser, même grossièrement, un peu, ce qui évidemment est entré dans une pratique parfaitement obsessionnelle, je le sais. Je dirais que dans une journée d'écrivain, on peut dire qu'il est idéalement, c'est-à-dire quand il n'a pas un autre métier, s'il n'est qu'écrivain, il y a en gros 4 secteurs. Il y a d'abord le secteur du besoin, manger, dormir, se laver, point d'interrogation, parce qu'on peut très bien mettre pour cela pas. Un besoin qui est déjà culturel. Deuxième secteur, le secteur du travail de création, le livre, l'œuvre, l'article, si vous voulez, le cours aussi, en ce qui concerne. Troisièmement, le secteur de la gestion, le courrier, les manuscrits, les writings, les interviews inévitables, les corrections d'épreuves, les courses, parce que de même il faut bien aller chez le coiffeur de temps en temps, les vernissages et les films, les projections privées de films de David. C'est la gestion. Enfin, quatrièmement, il y a même un secteur qui est nécessaire, qui est le secteur de la socialité, je dirais de la convivialité, de l'amitié. Et tout cela, aussi réduit et contenu que possible, donne à mon sens, sur 24 heures, ceci. Je considère qu'il faut, sauf pratique véritablement ascétique, donner au moins 10 heures aux besoins. Sommeil, nourriture, se laver. Qu'il faut avoir une vie équilibrée et non pas folle, donner entre 3 et 4 heures à la convivialité. Par exemple, les soirées. 10 et 4, 14. Il reste donc 5 heures précieuses, or, mon expérience me montre que dans le meilleur des cas, je puis consacrer 4 ou 5 heures au travail créatif. En ce qui me concerne, ce sont les matinées, mais que je ne peux pas, quelque temps que je fasse, consacrer moins de 4 ou 5 heures au travail gestionnaire. Donc, c'est énorme la gestion, puisque ça entre vraiment en rivalité avec la création. Et le pur entretien de la vie coûte autant que la création de choses nouvelles. Alors, cette comptabilité peut paraître pratique, notamment parce qu'elle comptabilise le temps d'habiter, mais comme je l'ai dit, très vite, s'impose, et je joue le jeu, un certain égoïsme de l'homme. Parce qu'en fait, le monde ne veut pas de l'œuvre. Et que travailler l'œuvre, c'est-à-dire donner à l'œuvre des heures de sa vie personnelle, apparaît très vite au monde comme quelque chose de respectable par croyance humaniste. Que l'œuvre, c'est quelque chose de bien. Un écrivain, c'est quelque chose qu'on doit respecter. Mais en même temps, comme quelque chose d'indésirable, finalement, et d'anormal. Et en général, les résistances de l'autre à être dérangé, on les met sur le dos de sa mauvaise humeur. Comme si la nature, c'est-à-dire la non-main, c'était de déranger, d'être dérangé. Comme si la nature, comme si le normal humain, c'était de déranger et d'être dérangé. Et que troubler cet ordre, ou s'y soustraire, c'est anormal. Et que ça doit être expliqué, ce que je fais, probablement avec beaucoup de mauvaise foi. Donc, dernière remarque avant mon acte, c'est qu'il faut sans cesse arracher l'œuvre à une force antagoniste qui est de l'ordre de la nature ou de la nature sociale, dans la mesure où l'œuvre est comme un pur individu. Car il est normal, même jusqu'à présent, dans la vie d'humanité, et bien sûr, ce serait le sens même du socialisme sans patrie actuellement, que de changer cette nature et cette normalité. Donc il est normal, il est considéré comme normal que l'humanité existe, que la gestion de la vie absorbe le temps même de la vie. Dans la gestion de la vie, c'est-à-dire l'entretien de la vie, la survie, il est normal que ça coïncide avec la vie. On vit seulement pour continuer à vivre. Évidemment, l'enjeu socialiste, c'est évidemment de créer une société où il serait possible, où le temps nécessaire pour l'entretien de la vie, pour la survie, serait dépuré. Et par conséquent, le reste du temps, rendu possible, serait consacré à la création, quelle qu'elle soit. Et donc, pour le moment, la création, c'est quelque chose qu'il faut arracher. Il faut arracher à la nature sociale. C'est un surplus, c'est un luxe. C'est un luxe, mais pas au sens ostentatoire. Et les tâches de gestion, même pour un individu social aussi sophistiqué que l'écrivain, ne produisent que l'entretien de la vie. Et elles sont improductives de ce surplus dont il a fait l'essentiel. Tout oblige l'écrivain, en effet, dans la vie sociale, à la gestion. S'il vieillit, par exemple, on trouve normal, on, c'est-à-dire l'opinion, la doxa, le mal, et les guerriens, le but, si vous voulez, trouve normal que la vieillesse se soit fait pour gérer ce qui a été fait autrefois. Répéter, reconduire son œuvre, être président du comité, etc. Et au contraire, le mouvement naturel de la vieillesse était la dictature. Et les êtres qui refusent la gestion sont très vite des marginaux, assez facilement discrédités. Il y a d'ailleurs des figures, dans la perspective de ce discrédit, il y a des figures de ce qu'on pourrait appeler l'anti-gestion, qui est certes moins prestigieuse que l'autogestion. Mais moi, je serais plutôt pour lutter pour l'anti-gestion que pour l'autogestion. En tout cas, après l'autogestion, il faudra bien lutter pour l'anti-gestion. Eh bien, ces figures de l'anti-gestion, fort discréditées, je vous en donne trois. Premièrement, le clochard. Deuxièmement, le parasite. Et troisièmement, ce qu'on appelait au XIXe siècle, l'écornifleur, c'est-à-dire le picassier. Et sur un mode plus philosophique, l'homme du Tao. Et donc, comment la question se pose, comment est-ce que l'écrivain, j'entends toujours ce mot au sens futur, mais pas celui qui veut l'écrivain, peut-il se protéger contre les empiètements et les agressions de la gestion, au sens très large du terme, c'est-à-dire contre les demandes de la vie. En général, on vous dit, quand vous vous plaignez, vous vous levez, quand on se plaint, on vous répond, refusez. Il n'y a qu'à refuser. Refuse. Il n'y a qu'à refuser les demandes, les invites et les idées. Évidemment, quoi qu'on veuille, c'est de ce côté qu'est la solution, la protection. Et Michelet, encore lui, c'est souvent Michelet parce que vous savez qu'il faut travailler. Donc, ma jeunesse, et que par conséquent, c'est toujours la culture de ce moment-là qui est la mieux ancrée en vous. Et Michelet parle quelque part, pour s'expliquer, d'un peuple de l'ambiguïté qui périt faute de savoir dire non. Bien effectivement, il faut savoir dire non si on ne veut pas périr. Et on pourrait imaginer, selon la vue d'un romanesque fantastique, un homme, un héros ou un saint, qui était en quelque sorte, qui aurait été en quelque sorte malade de refuser, à qui l'acte de refuser quoi que ce soit serait une épreuve intolérable, et qui donc ne pourrait rien refuser. Et imaginons donc d'une façon romanesque le développement à la fois grotesque et dramatique de sa vie. Ça peut être un bon argument dans le goût des contes de Voltaire. Car refuser, effectivement, ça devient à un certain moment une question de vie ou de mort. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile? Ben, je dirais que c'est difficile pour une raison grammaticale. En effet, refuser en français est classé parmi les verbes transitifs, c'est-à-dire les verbes qui ont un complément d'objet. On refuse quelque chose. Mais en fait, ce qui est important, c'est-à-dire la véritable construction du verbe, dans la construction du verbe, ce qui est important, c'est l'attributif. C'est-à-dire que on refuse quelque chose, mais toujours à quelqu'un. On refuse à quelqu'un. Quel qu'il soit. Et cela n'existe pas de refuser à personne. peut se refuser à soi-même, peut-être, dans certains cas, à travers beaucoup de l'heure, mais de toute façon, on refuse toujours à quelqu'un. La vraie transitivité n'est pas ce qui lie le sujet à un objet refusé, c'est ce qui lie le sujet à un autre sujet, qui est refusé. Refuser quelque chose à quelqu'un, c'est refuser ce quelqu'un. C'est toujours là que ça veut dire. Et au fond, je dis que c'est une question grammaticale parce que le latin le savait très bien, mieux que le français. Car, j'ai vérifié, refuser sa porte à quelqu'un, en latin, ben en français, c'est l'attributif, c'est à quelqu'un, c'est mis en position indirecte. Mais en latin, on disait prohibere aliquem janua, domo, c'est-à-dire refuser quelqu'un aliquem, accusatif, prohibere, refuser, empêcher aliquem quelqu'un, janua ou domo, deux portes, refuser quelqu'un deux portes. C'est-à-dire que le complément d'objet passait au fond à un rang auxiliaire, et la véritable relation posée par le latin était entre le sujet qui refuse et le sujet à qui c'est refusé. Et bien sûr, alors, tout commence. Tout commence, c'est-à-dire l'intersubjectivité, le jeu des images, la peur, le désir, etc. C'est une pente si glissante et si dangereuse pour l'œuvre que l'écrivain, le scriptus, celui qui va s'écrire, ne cesse de chercher à inventer des protections contre les exigences de la gestion. Et ces protections sont des sortes de relais qui courent à la demande sans avoir à assumer directement la suprême agression du non. Car non est le nom même de l'agression. On ne parle pas, bien entendu, des mensonges contingents que chacun met dans sa vie pour refuser quelque chose qui en est, sa maladie, voyage, tous les raccourcements ventilatoires. Je parle des protections de son qui peuvent servir au-delà de telle ou telle contingence, car il est facile de mentir une fois d'une façon contingente, mais mentir plusieurs fois, cela dégage un sens qui est précisément « je mens », toute cette mécanique qui est en plus. Alors, parmi les conduites de protection, ou les recherches de protection, je vais en citer quelques-unes, l'une très illusoire, je la cite, ce serait l'immobilité entêtée, envers et contre tout. C'est-à-dire ce que j'ai dit de l'oisiveté, d'art, mais tourné au profit de l'œuvre. Par exemple, systématiquement, ne répondre à aucune lettre, sauf aux factures pour éviter un plus grand dérangement extérieur, n'aller à aucun rendez-vous, couper le téléphone, et bien sûr, Flaubert est là pour m'aider. Je trouvais que je ne suis pas complètement fou, en tout cas, je ne suis pas seul. Quand il dit à 25 ans, je lis ou j'écris régulièrement de 8 à 10 heures par jour, et si l'on me dérange, j'en suis tout malade. Bien des jours se passent sans que j'aille au bout de la terrasse, le cajot n'est seulement pas un flot, le cadeau sur la scène. C'est un peu la façon dont je vis à la campagne, et c'est cela que représente pour moi la campagne. Pas au premier chef de la chlorophylle, mais je fais qu'effectivement je peux rester des journées entières, non pas sous les arbres, mais dans la maison, sans qu'il me soit enjoint de rien faire d'autre que ce que je veux, et donc sans qu'il me soit imposé de rien refuser. C'est sans doute un parti irréalisable, mais utile à concevoir, dans la mesure où il oblige précisément à concevoir les dérangements et les mouvements sous l'angle de la conséquence ou de la non-conséquence, c'est-à-dire qu'il dégage de l'attitude, de l'attitude et de la vague pression de l'image. Car on se laisse souvent déranger par étourderie, par habitude ou par crainte d'abîmer notre image, et au fond, à chaque fois qu'il y a un dérangement qui intervient, on devrait, d'une façon assez cynique, se demander si je refuse ce dérangement, quelles conséquences ça va avoir. L'immobilité, donc, disons, les retraites par immobilité, je dis par parenthèse, par situation, qu'on pourrait un jour, autrefois, dans des thèses de troisième cycle, réfléchir à une sorte de typologie des retraites, ou si vous préférez, une typologie du temps immobile. On aurait par exemple, compte tenu de ce que j'ai dit, de ce que je veux dire, premièrement, on pourrait appeler le temps monastique, qui est le temps, en fait, de l'éducation, de l'âme, le temps de la psychologie. Deuxièmement, le temps épicurien, le retraité, dont je vais parler d'ailleurs. Et troisièmement, c'est un thème poétique, le temps stérile, le temps immobile stérile, non plus autarcique, car ce que je décris c'est une autarcie de conduite, mais autiste, c'est-à-dire narcissique jusqu'à la stérilité, qui serait le temps de l'exil classé, et qui est figuré, vous le savez, dans notre poésie par l'oiseau malarméen et l'oiseau valérien, qui est le signe qui est le grand oiseau malarmé, notamment dans le sonnet qui s'appelle Le Vierge, le grâce et le bel aujourd'hui, et qui est l'oiseau, effectivement, de l'immobilité stérile, de l'exil brillant et classé. Donc, première protection, l'immobilité. Impossible. Deuxième protection, l'œuvre à faire peut être elle-même un motif déclaré de refus. Et il y aurait donc ce qui vous protégerait mieux, ce serait le retour à la vérité. Je ne peux pas aller à ce vernissage, disons, ou à cette projection de film. Excusez-moi, j'ai un roman à faire. Nous sommes dans la préparation du roman. C'est la réponse célèbre de Gide, j'écris pas lui. Je ne peux rien faire parce que j'écris pas lui. Mais en écrivant pas lui, je ne fais rien en même temps, ben ça c'était l'exercice de Gide. Malheureusement, vous le savez, la vérité ne convainc jamais, en tout cas souvent moins bien qu'un mensonge. Et c'est là le principe fondateur de la rhétorique. Et pour que cette raison vraie impose le refus, c'est-à-dire ne soit pas suspectée, contestée, et pour qu'elle ne blesse pas, car c'est ça le problème du refus, c'est de ne pas blesser. Il faut une société ou un milieu qui reconnaisse l'œuvre comme importante, vitale, et ce qui est de plus en plus rare. Et alors on a aujourd'hui ce paradoxe, en tout cas paradoxe journalistique, aux yeux des journalistes, que l'œuvre ne semble exister, c'est-à-dire avoir une valeur, que pour permettre la dynamisation en interview, en préface, etc. Comme si on écrivait des œuvres que pour ensuite avoir des interviews. Comme si l'interview était la fin naturelle de l'œuvre et que par conséquent, une fois que l'œuvre est faite, eh bien, on doit être à disposition pour son utilisation. Comme si, au fond, l'œuvre se faisait toute seule sans qu'on y passe du temps. C'est-à-dire qu'on vous demande de remplir la figure de l'écrivain, qui est encore nécessaire à certains journalistes, sans supposer que cela coûte du temps. Contradiction, évidemment. Troisièmement, peut-être la protection la plus forte, mais il faut en avoir le talent, peut-être l'inspiration, peut-être la protection donc contre le monde et les dérangements la plus forte, ce serait l'originalité. Imposer au monde qu'on est un original, en vertu de quoi, le rôle étant reconnu et classé, le monde vous laissera en paix et abandonnera la demande. J'en suis persuadé. Persuadé en fait que c'est la meilleure réponse. Mais il faut en être capable. Il est possible que sans qu'il le veuille, et c'est pour ça que ça a marché, l'originalité, pour ne pas dire l'excentricité de tous, la protéger et la seconder dans la fabrication de son œuvre. Car cette originalité l'a enfermée dans une sorte d'enveloppe regardée par les autres, mais qu'on n'osait pas attaquer et franchir, tellement elle était particulière. Je dirais même une originalité simplement vestimentaire vous pose comme quelqu'un à part dont on comprendra finalement très facilement qu'ils ne viennent pas à un rendez-vous, qu'ils bloquent son téléphone, etc. Je vous renvoie là aux agissements, plutôt aux accoutrements de Proust dans la rédaction de son œuvre, en tout cas, c'est-à-dire principalement quand il a dit « Edouard Haussmann », quand on dit les gens qu'il voyait en état comme ça dans son appartement, qu'il voyait un être avec des moustaches illégales, une robe de chambre aux couleurs cachées, au-dessous du col de chemise, des plastrons doigts, des gants de philosèle, des chaussons en tricot. Et quand il était venu à plein, c'est-à-dire plus tard, à la mort, il était au lit avec un foulard autour du cou, à une visite. Si quelqu'un très proche pouvait entrer dans la chambre, alors il sortait de son lit, mais il sortait tout habillé de ses couvertures, avec des gants de coton blanc ou noir, plusieurs paires de bas et plastrons de chemise chiffonnés, sans parler, bien sûr, mais j'y reviendrai, de la version du jour et de la nuit. Au reste, dans tout cela, il y a une sorte de liberté individualiste qui est difficile aujourd'hui dans un contexte où l'État est de plus en plus dérangeant. Je veux dire, paradoxalement, plus les mœurs, disons, se libéralisent, en tout cas au niveau vestimentaire, des conduites dans la rue, et plus il est difficile d'être original, bizarrement. Bon, c'est pas bizarre d'ailleurs, c'est normal, parce que les frontières de la normalité reculant, et bien l'originalité a beaucoup de mal à se poser. Et en particulier, par exemple, une auto-séquestration complète, comme fut en fait celle de Proust, est de plus en plus difficile à imaginer. Par exemple, Proust, bien que sa vue se fût affaiblie considérablement, ne voulait pas aller chez l'oculiste parce qu'il ne pouvait sortir que la nuit. Et que les oculistes ne fonctionnent pas la nuit. Ben, je pense qu'aujourd'hui, on arriverait de force dans une ambulance, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité sociale. Et de même, quand à la déclaration de guerre de 14, Proust, qui avait un cœur patriote, a été très embarrassé, très angoissé, car il voulait à tout prix passer une visite médicale militaire, mais il ne pouvait la passer que de nuit. Il ne pouvait pas sortir des yeux. Alors, vous imaginez, n'est-ce pas, une telle naïveté aujourd'hui. Si un conscrit disait, je veux bien passer la visite médicale militaire, mais seulement la nuit. Alors, vous savez qu'aussi, faut s'user comme protection d'une courtoisie excessive et retox, toujours dans le cadre de son originalité, que justement quand il était rue à plein à la fin de sa vie, et lui qui était extrêmement sensible au bruit, et le bruit l'empêchait de travailler, et l'appartement se trouvait dans une maison agitée, et en particulier, il y avait des enfants trépignés à l'étage au-dessus, et cela le mettait au désespoir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a fait présent de pantoufles en feu. Alors évidemment, à part ça, je crois qu'il est difficile pas de continuer à agresser un écrivain qui pense cette conduite. Alors pourquoi est-ce que la gestion pose un problème si lourd? Parce que ce sont des tâches morcelées et répétées, c'est-à-dire qui s'éparpillent le long des journées, qui reviennent et qu'on ne peut jamais épuiser, pour le mythe de Sisyphe. Et donc qui viennent casser la nappe, la continuité du travail fait. Or, cette continuité est vécue comme nécessaire et vitale, je l'ai dit. L'œuvre est socialement gratuite, elle ne sert à rien. Donc il n'est possible d'y croire et de s'y donner qu'en s'y enfermant et qu'en créant en soi une sorte de schizophrénie ou d'autisme. Et les tâches de gestion, courrier, petites commandes, etc., sont autant de petits démons qui viennent troubler et qui viennent diviser l'unité de l'œuvre en train de se faire. Et donc, une solution souvent imaginée, souvent caressée, mais en fait jamais accomplie, ce serait de bloquer la gestion. Combien de fois j'ai essayé de faire cela? Je dirais que, reprenant un mot de Bernard Shaw sur le ne plus fumer, je dirais bloquer la gestion pendant un jour de la semaine est très facile, je l'ai fait 1000 fois. Donc les plus pas, ne plus fumer est très facile, je l'ai fait. Donc bloquer la gestion est très facile, mais ce qu'il y a, c'est que ça ne tient pas. Bloquer la gestion, par exemple, un jour par semaine, pour ensuite ne plus y penser. Donner un jour entier à la gestion, par exemple. Disons, faire une sorte d'abcès fixation, sacrifier un jour pour avoir l'esprit tranquille le reste de la semaine. Et je dirais qu'avec un ami qui a les mêmes problèmes que moi, nous avions imaginé, d'une façon assez ludique, puisque nous ne l'avons pas encore réalisé, de passer une journée par semaine ensemble pour liquider de concert les tâches de gestion, peut-être moins ennuyeuses si on les fait à deux ou à plusieurs. Et j'avais dit à ce moment-là que peut-être nous pourrions créer ce qu'on appelait autrefois, chez les dames de la bonne bourgeoisie, un ouvroir hebdomadaire, un ouvroir, c'est ce qui vient de opérer, travailler, c'est-à-dire un lieu où on travaille collectivement. On savait jusqu'à présent une colocation charitable, mais nous pourrions créer un ouvroir où nous placerions ensemble toutes les tâches de gestion à faire et nous les ferions ensemble de façon donc plus joyeuse. Et tout ceci étant une sorte de préfiguration de ce que devrait être le temps d'une bonne société, un jour de travail, six jours, ou de rêve, ou de manie, pourvu que ce soit inoffensif. Autre protection, ça c'est la dernière, je crois, il existe en effet une dernière, suprême et paradoxale protection possible contre les tâches de gestion et surtout contre la culpabilité qui vous ronge quand vous ne les accomplissez pas ou quand vous les accomplissez avec le cœur. Car chacun, bien entendu, est responsable de sa présence au monde. Il existe donc une protection qui vous libère de toute cause et vous laisse seul et libre devant une écriture quotidiennement infinie. Et cette protection miraculeuse, c'est la maladie. Bien sûr, je me réfère ici à Kafka, toujours exemplaire. Vous savez qu'en revenant de Hongrie, en août 1917, il a de la toux, des crachements de sang et des hémoptysies, donc. Et en septembre, la tuberculose se déclare. Et Kafka en est presque heureux. Il dit, c'est presque un soulagement. Car il est libéré à ce moment-là de toutes les obligations, ce que j'appelle la gestion. C'est-à-dire, il est libéré du bureau, de la famille et de la fiancée. La liberté avant tout. Il part dans un petit village de poète qui s'appelait Surao, et il écrit « En tout cas, je suis aujourd'hui avec la tuberculose dans le même rapport qu'un enfant avec les jupes de sa mère auxquelles il s'accroche. Je cherche continuellement à expliquer la maladie, car enfin je n'ai pourtant pas couru moi-même après. J'ai quelquefois l'impression que mon cerveau et mes poumons auraient conclu un pacte à mon insu. » Rapidement dit, vous savez que comme je m'entremêle toujours à ces grands noms, quelqu'un est ouvert, vous savez donc que j'ai connu ce sentiment, puisque j'ai été deux fois, disons, malade, de la même maladie, mais disons, à deux reprises différentes. La première fois, c'était au mois de mai de ma classe de philosophie. J'étais en classe de philosophie ici à côté, à Milan. Et donc, je devais passer le bachot en juillet. Et au mois de mai, je suis tombé malade. J'avais 17 ans. Et j'étais dans une situation personnelle, familiale, difficile, bien précisément. La maladie m'a délivré en quelque sorte de cette situation personnelle et difficile. Mais bien entendu, j'ai commis l'erreur de ne pas aller en SANA à ce moment-là parce que j'avais jamais été en pension, que j'avais horreur a priori des vies collectives, et donc j'étais à son appel en cure libre. Dans un village des Pyrénées, dans la vallée d'Asse, derrière Pau. Mais en fait, pendant cette année-là, je me suis horriblement ennuyé et j'ai vécu dans une très grande frustration d'adolescent. Et la seconde fois, j'ai fait une rechute de cette même tuberculose pendant l'occupation, à la fin de 1941, et peut-être que finalement, je suis aussi tombé malade à ce moment-là, pour me délivrer du souci avec un grand S. C'était vraiment, je pouvais vraiment mettre un grand S au souci des Français, des jeunes Français, en 1941. Et alors là, je suis parti dans la vallée au-dessus de Grenoble, et j'ai été d'ailleurs, contrairement à toute prévision, j'avais fait, j'étais très heureux. J'étais assez heureux, en tout cas même peut-être très heureux. Au Sana, j'ai eu des amitiés de j'y ai fait de grandes lectures classiques. Mais je n'ai pas écrit, je n'ai pas écrit. Et j'ai souvent pensé, quand le psychanalyse est extrêmement facile, que j'étais tombé tuberculeux pour me protéger. La première fois d'une situation familiale et la seconde fois d'une situation nationale plus douloureuse. Mais cependant, comme je le dis, je n'ai pas écrit pendant ma maladie, seulement des notes de lecture, et c'est en revenant au monde actif que je me suis mis à écrire, à publier vers 1946. Alors, il va de soi que la protection de la maladie est une protection terriblement ambiguë et qu'elle est vécue comme dangereuse. Du temps de Kafka et du temps de ma jeunesse, comme je dis plusieurs fois, de la tuberculose, on mourait, tout simplement. C'était une maladie dont on mourait. Et donc, il y avait au bout de tout être qui était diagnostiqué comme tuberculeux, non seulement était donc rejeté, d'une certaine façon, de la société par un tabou très vieux, tabou qui s'inscrivait dans les règlements administratifs. Si on avait été tuberculeux, il était très difficile de se faire intégrer, comme on dit, comme fonctionnaire. L'État ne voulait pas prendre en charge les anciens tuberculeux. Et pour ma part, j'ai eu la chance de pouvoir guérir, entre guillemets, puisque il était difficile de la tuberculose. Était quelque chose qui ne se guérissait pas, enfin, c'était quelque chose qui se stabilisait, on ne pouvait jamais être sûr qu'on était guéri, puisqu'il y avait toujours des rechutes possibles. Alors on disait qu'on était stabilisé. Et j'ai eu la chance que, une fois stabilisé, j'ai pu aller comme aide bibliothécaire à l'Institut français de Bucarest, on dirait maintenant vacataire à l'Institut français de Bucarest. Et que donc j'ai pu être intégré dans le cadre d'éducation nationale, parce que là-bas il y avait un médecin roumain qui avait toute la laxité adorable du caractère roumain, mais qui par chance de plus était assermenté auprès du consulat français. Donc il m'a fait un certificat qui m'a permis d'être intégré. Et sans ça j'aurais mis des années et des années à pouvoir être ce qu'on appelle dans le cadre de l'éducation nationale. Vous savez que c'est important parce que pour toucher une retraite, il faut 37 ans et quelques mois de service. C'est très très long. L'intérêt à commencer ça, faire le plus tôt possible dans la vie. Alors, donc, je veux dire que la maladie, c'était quelque chose de dangereux et. Encore une fois, à cette époque-là, c'est-à-dire avant la découverte de la chimiothérapie qui a changé complètement cette maladie, eh bien avant, encore une fois, on n'était pas guéri, on était stabilisé, et on était voué d'ailleurs pratiquement, très souvent, à vivre toute sa vie à la montagne. Vous croyez que la montagne faisait du bien à la tuberculose. Donc, il y a un moment de ma vie où j'ai envisagé très sérieusement d'être toute ma vie ou médecin. J'ai fait quelques mois de préparation de la médecine, en changeant complètement d'orientation, dans l'idée que je pourrais devenir médecin et donc être médecin de Sana, ou encore bibliothécaire de Sana. Et puis tout cela a été balayé, finalement, j'ai bien fait d'avoir davantage confiance. Eh bien, la maladie de Proust, évidemment, doit être aussi, c'est-à-dire aussi, mais c'est-à-dire pas seulement, bien sûr, elle peut être aussi interprétée comme une protection. Le discours de la plainte est très abondant chez Proust, enfin, vous rappelez que toutes ses lettres font allusion à sa maladie, c'est un discours de retrait du monde, et sa maladie, qui cliniquement était assez complexe, sinon énigmatique, il y a un livre là-dessus, n'est-ce pas, qui s'appelle L'asthme, comme ça. Sa maladie, c'était à la fois ce qui l'empêchait de travailler et ce qui lui permettait d'écrire, paradoxalement. Et avec Proust, il y a aussi ce signe terrible à interroger. Et c'est simplement un point d'interrogation et je ne peux pas répondre. C'est qu'il est mort quand l'œuvre a été finie. J'ai déjà évoqué le cas, la question de l'école. Peut-être l'école, qu'est-ce qui s'est passé si Proust avait continué à vivre après la recherche du tempérament. Il est très très difficile de répondre à cette question. Autrement dit, jamais le couple œuvre-maladie ou œuvre-mort n'a été plus dialectique. Et je dirais plus nuptial. Vous savez qu'il y a un écrivain, je crois qu'on dit beaucoup, de la fin du 19e siècle, de Charles-Louis Philippe, qui a dit ce mot que je trouve très beau pour l'époque en tout cas, la maladie et le voyage du pauvre. Et c'est vrai, je viens encore d'en faire l'expérience, car dans une période de confidence personnelle, ma concierge, apparemment visiblement d'un a été obligée d'aller subir une intervention chirurgicale, d'ailleurs sans gravité, en hôpital. Et quand elle m'a annoncé ça, j'ai vécu cela de mon point de vue, c'est-à-dire comme une chose horrible, horriblement ambitieuse, assommante, un dérangement effroyable, etc. Or, j'étais très surpris de voir qu'en fait, elle en était très contente. Non seulement elle ne s'en tenait pas, non seulement elle avait l'air de le prendre bien, mais même de le prendre très bien. Et effectivement, pour quelqu'un qui a une vie très dure, qui travaille toute la journée, qui se lève le matin à 5h du matin pour mettre les boîtes à armure dehors, qui les ramène à 6h30 du matin dans la cour, etc., et bien, l'hôpital, c'est la suspension de ce genre d'aliénation, et ce sont donc comme des vacances, la maladie. Eh bien, je peux même en souvenir que la maladie, peut-être pour l'écrivain, ça n'est pas les vacances, mais c'est en tout cas peut-être la vacance fantasmée, le vide mondain où vient se loger fantasmatiquement l'œuvre. Alors, avant d'entrer dans le détail pratique de la vie d'Anova, la vie méthodique, je voudrais indiquer, ou en tout cas ne pas censurer, que l'idée même de Vita Nova pour faire l'œuvre a certainement un rapport avec le religieux. L'écrivain sacralise l'œuvre, je vais y revenir tout de suite, et en se mettant à son service, en s'y convertissant, il veut opérer une rupture spectaculaire du genre de vie, exactement comme un chrétien, par exemple, appelé par Dieu, entrera au monastère. C'est-à-dire que le sujet accepte, assume, par rapport au mondain et au monde, une attitude qui est très méprisée du monde et qui est la démission. Il accepte de démissionner, qui est une chose toujours très mal vue et de tout le monde. Si on faisait le tableau social des abjections, eh bien, parmi les abjections, il y aurait certainement la démission. En face de quoi, à quoi j'opposerais ce mot superbe, à mon avis, du poète anglais Ilios, quand il parle de, à propos de quoi, je ne sais pas quand, l'audace terrible d'une capitulation instantanée. L'audace terrible d'une capitulation instantanée. Eh bien, écrire une œuvre, si engagée soit-elle après coup, comporte l'apparence d'une capitulation devant les forces du désir ou de culpabilisation par rapport au monde qui est donné comme un ensemble de forces saines, droites et naturelles. Et cette capitulation veut dire qu'en fait, on substitue une instance morale à une autre et qu'on assume donc une conversion. Et je dirais qu'il y a donc dans la capitulation de l'écrivain qui va s'enfermer pour écrire son œuvre, il y a une affinité avec le mouvement mystique. Car le mystique choisit toujours la dévaleur. La dé est une non-valeur. Un mystique est un être qui choisit la dévaleur. cette des valeurs qu'on pourrait appeler, en termes mystiques, la ténèbre. Il choisit toujours la ténèbre, c'est-à-dire la des valeurs. Eh bien, à ce moment-là, si vraiment l'écrivain a cette sorte d'affinité avec le mystique, pourquoi l'œuvre, vraiment, pourquoi cet acharnement, pourquoi ces sacrifices, pourquoi cet absolu, cela devient presque incompréhensible. Je n'essaye pas de comprendre, et j'en reviens simplement, encore une fois, à la réponse de Mallarmé à cette question, qui est, je répète, pas de très belle manière, sait-on ce que c'est qu'écrire ? Sait-on ce que c'est qu'écrire ? Une ancienne et très vague mais jalouse patrie, dont dit le sens au mystère du cœur. Quiconque qui l'accomplit intégralement se reprend. Qui l'accomplit intégralement se reprend. J'ai le temps d'entamer pendant 5 minutes encore un autre paragraphe de cette ligne hébonique. Et ce paragraphe, je l'emprunterai, je lui donnerai pour titre une expression que je vais expliquer, bien sûr, que je prends à Nietzsche, et qui est la suivante, la casuistique de l'égoïsme. Et alors je vais revenir à l'égoïsme, à quoi contraint, semble-t-il, l'homme. Eh bien, en effet, de dire que l'écrivain doit accepter de sacraliser l'œuvre, c'est-à-dire de la consacrer. Bien entendu, le problème que je pose n'est pas l'œuvre faite, l'œuvre pour les autres. À ce moment-là, bien au contraire, je crois que l'écrivain ne la consacre pas du tout, elle n'est plus sacrée, elle est de l'ordre du factice. Mais l'œuvre à faire, c'est cela qu'il consacre. Et c'est donc par un artifice volontaire et provisoire, que, en fait, c'est moi-même que je dois sacraliser. Moi-même, en tant que je fais une œuvre, je dois devenir sacré à mes propres yeux. Il faut faire de soi-même un être sacré en tant qu'il fait, et non pas en tant qu'il est. Je ne fais pas de moi un Dieu, puisque ce n'est pas en tant que je suis que je me fais sacré, mais je me fais sacré en tant que je fais. En sorte que les atteintes du monde à l'égard de l'ouvrier, de l'opérateur que je suis, soient graves, et donc que j'ai le courage et l'intelligence de les stopper. Ce n'est pas si étrange et allusif que ça, je pense qu'il y a dans la vie laïque, il y a des traces, des bribes de sacralisation. Vous voyez le langage politique. Il y a un langage politique, il y avait en tout cas. Non, ça a un peu changé, mais il y a eu pendant longtemps, dans un certain langage politique, une sacralisation de l'ouvrier, et par conséquent, toute atteinte de langage à l'ouvrier était considérée comme un blasphème. Donc il y a des sacralisations dans la vie non religieuse. Eh bien, en ce qui concerne l'écrivain, par exemple, il faut que je me figure ou que je me projette à mes propres yeux précisément comme une figure. C'est-à-dire que je me porte en avant de moi-même dans un rôle, je me porte en avant de moi-même volontairement dans un rôle dont la force m'aidera à faire ce que je veux faire. C'est un truc, c'est rien de plus qu'un truc, c'est un truc psychologique. Je me sacralise, je m'imagine dans un rôle, je me mets en position, comme je l'ai dit, et cela va me donner la force de faire cette autre activité qui est une œuvre. Et ça, c'est indiqué heureusement par Flaubert, encore une fois. Il a 57 ans, donc c'est pas un trait d'adolescence. Et il dit, il faut se poser vis-à-vis de soi-même en homme fort. C'est le moyen de le devenir. Bon, ça c'est très connu, il y a des développements, de très beaux développements dans le Sartre. Dans le Sartre qu'on le lit, je pense pas beaucoup, je ne sais pas très bien, enfin, et c'est quand même bien dommage, notamment dans L'Être et le Néant, et dans le livre sur le lait aussi, sur ce qui arrive justement quand on se figure comme figure, comme un rôle. Un autre moyen, ou une autre trace de cette sacralisation de l'œuvre, de soi-même en tant que faisant l'œuvre, c'est de solenniser l'acte d'écrire. Et en fait, donc, de solenniser l'acte de commencer et de finir l'œuvre. C'est comme la première pierre qu'on pose ou pour un édifice, vous savez que c'est sacralisé, ou comme le drapeau que les ouvriers mettent au fait d'une toiture quand elle est finie, une maison quand elle est finie. Développer encore en 1849, c'est-à-dire il vient de finir la tentation de Saint-Antoine, il écrit, alors vous allez voir que solennellement complètement cette fin, mercredi 12 septembre 1849, à 3h20 de l'après-midi, temps de soleil et de vent, commencé le 24 mai 1848, à 3h15, donc les deux dates terminales de l'écriture de la tentation de Saint-Antoine. Alors évidemment, à quel point la sacralisation est de l'ordre du symbolique, va de soi, mais c'est démontré d'une façon cinglante par le démenti apporté par la réalité à cette solennisation. Car cette œuvre annoncée et paraphée triomphalement, à savoir la tentation de Saint-Antoine, a eu plus d'avatar que n'importe quel autre œuvre de Flaubert. Vous savez que cette œuvre dont la fin est triomphalement annoncée ici, comme vraiment une fin, si j'ose dire, définitive, le triomphe absolu de l'accomplissement, au sens religieux du mot de l'œuvre, eh bien, cette œuvre a été censurée par les amis de Flaubert, Maxime Dupont et Villet, qui recommandent un sujet plus terre à terre à Madame Bovary. Cette œuvre, donc, a été une première fois censurée par les amis. Une seconde fois, elle a été remaniée en 1856 et elle a été publiée seulement en 1874, c'est-à-dire 25 ans après la solennisation de l'achèvement. Alors, je précise une fois de plus que celui qu'il s'agit de sacraliser, c'est l'opérateur, celui qui fait l'opérateur, et non pas le scripteur, celui qui a fait l'auteur. D'où, amusant malentendu, dans certains croient que l'écrivain se sacralise et se drape comme écrivain, alors qu'il se sacralise que comme écrivain, quelqu'un qui est en train d'écrire, c'est ça qu'il sacralise, mais il ne se sacralise pas comme figure sociale, comme écrivain. Et il y a souvent un malentendu, qui peut être amusant, quelquefois désagréable, en face par rapport à ceux qui s'emploient à le désacraliser avec une impertinence plus ou moins agressive, en croyant qu'il se croit un écrivain. Comme ça, il y a toute cette groupe, un jeune homme qui a déjà un an d'ailleurs, que je ne connaissais pas, qui visiblement a cru que je me prenais pour un écrivain consacré, et alors il s'est amusé à me désacraliser avec une certaine impertinence. Mais j'ai compris, justement, j'ai compris qu'en fait, il me sacralisait, que c'est lui. Ben, en fait, comme il me désacralisait, en fait, c'est qu'il me sacralisait comme écrivain à partir d'une position absolument fausse qui n'était pas la mienne et dans laquelle je ne me reconnaissais pas. Car je ne me prends jamais pour un écrivain, sauf quand j'écris. Et pas quand j'ai écrit. Et je le voyais donc, ce charmant jeune homme, s'enfoncer dans une opération de langage dont je savais en moi-même, n'est-ce pas, qu'elle ne me concernait pas. Et donc finalement, c'est moi qui avais tard sur lui, comme toujours, et comme toujours, il ne le savait pas. Voilà. Eh bien, je crois que je vais arrêter ici avant la question.